L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5500 francs par jour seulement.
Bonjour Lionel Sabot.
Bonjour Nicolas Legrand.
Vous recevez ce matin le commandant supérieur des FANC.
Ah oui, le général Yann Latil, qui est notre invité du matin. Bonjour mon général.
Bonjour Lionel Sabot.
Merci d'être avec nous. L'actualité pour commencer cet entretien, le Vanuatu a été touché hier 12h47 par un violent séisme. On l'a entendu dans le mini-journal avec Léana Colombo et Nicolas Legrand à l'instant. Un avion de reconnaissance a été envoyé sur zone. C'est en tout cas le ministre des Armées qui l'annonce, Sébastien Lecornu. C'est un avion qui a décollé de la Nouvelle-Calédonie ?
Oui, effectivement. Dès hier début d'après-midi, nous avons été en contact avec notre ambassade au Vanuatu, qui nous a fait état des éléments dont il disposait aussitôt que possible, dès que les communications ont pu être légèrement rétablies. Nous avons préparé les opérations qui étaient possibles en mettant des dispositifs en alerte. Tout ça s'est fait en coordination au commissariat dans le cadre d'une cellule d'aide d'urgence régionale qui associe la DSCGR, le ministère des Affaires étrangères, la Croix-Rouge et les forces armées, évidemment. Et nous avons, dès ce matin, dès le lever du jour, envoyé un Falcon de reconnaissance au-dessus de Port Vila. Il est en cours de reconnaissance, il prend des photos. Mmh. Si la piste le permet, il se posera pour donner les photos directement aux autorités locales pour conduire les secours. Sinon, il reviendra à Nouméa et on récupérera l'ensemble de ces photos pour les transmettre au Vanuatu et à nos partenaires pour intervenir rapidement.
Et quelle pourrait être la suite en termes d'aide pour le Vanuatu ?
Alors, au-delà de ce Falcon de reconnaissance, nous avons mobilisé d'autres équipements, d'autres moyens. On a deux avions CASA qui sont prêts à décoller en fin de matinée, avec à bord des équipes pour renforcer nos agents de l'ambassade. Également des équipes de la sécurité civile si c'était nécessaire. Tout ça dépendra évidemment des premières reconnaissances. On sait qu'il y aura des difficultés sur l'approvisionnement en eau, en électricité, probablement de nombreux blessés, Nivans, Français. Donc il faudra prendre soin d'eux, des dispositifs médicaux. On a également un hélicoptère qui est prêt à décoller puisqu'on a la capacité depuis la Nouvelle-Calédonie d'atteindre Port Vila avec un vol de Puma.
Est-ce que l'aide pourrait venir aussi depuis la mer ? Est-ce que les navires de la base navale sont mis en alerte, j'allais dire ?
Alors effectivement, on a le vent de mer qui est au port sur la base navale qu'on a mis en alerte. L'équipage est en mesure d'appareiller sous quelques heures lorsqu'on aura pu faire un diagnostic précis et le charger d'équipement si c'est nécessaire. Je pense en particulier à des kits de secours pour les familles, à des moyens d'urgence, à de l'alimentation, à de l'eau. Il va manquer de l'eau. Mmh. Et on a également le bâtiment d'Entrecasteaux qui est actuellement au Tonga. Et on étudie la possibilité de faire dériver dans son retour vers Nouméa, vers Port Vila, puisqu'il a quelques équipements à bord, en particulier des moyens de purification d'eau qui peuvent être intéressants en ce moment à Port Vila. Mmh.
Mon général, j'aimerais qu'on revienne sur la période que vient de traverser la Calédonie, cette période de violence à partir du 13 mai. Finalement, quelle a été l'implication des forces armées en Nouvelle-Calédonie lors de cette crise insurrectionnelle ?
Ah, elle a été de trois ordres. Mmh. Le premier, ça a été un soutien aux opérations des forces de sécurité intérieure, gendarmerie, police. D'abord à travers un pont aérien depuis la métropole, pont significatif qui a mobilisé quasiment l'ensemble de la flotte des Airbus A330 MRTT dont dispose l'armée de l'air. Mmh. C'est 6000 femmes et hommes des forces de sécurité intérieure et militaires qui ont été transportés. Il a fallu ensuite les répartir à partir de la Tontuta sur l'ensemble des sites pour lesquels on avait besoin de ces renforts. Beaucoup sur Nouméa, avec un pont aérien que nous avons assumé vers Magenta, mais aussi avec des hélicoptères pour les conduire en province lorsque c'était nécessaire. C'est le premier volet. Le deuxième, c'est un soutien aux populations. Les axes étaient bloqués. Il y avait des besoins, en particulier dans le nord, sur les îles, en médicaments, en alimentation. Donc là, c'est nos bateaux de la marine et nos avions CASA qui ont pu faire ces reconductions, ces approvisionnements dans le nord. à travers plusieurs rotations, 2 fois 160 tonnes d'équipement, de matériel, de nourriture à Koné par exemple. C'était le deuxième volet, assistance aux populations. Et le troisième, c'est la protection de sites sensibles. Nous avons protégé jusqu'à 12 sites, le port, les deux aéroports de Magenta et de la Tontouta, et puis des sites de production d'eau, d'électricité qui pouvaient être sensibles pour les populations de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, nous sommes sur les aéroports uniquement, puisque la situation se stabilise, et c'est probablement le format que nous allons garder dans les semaines à venir.
Comment est-ce que vous avez vécu ces moments de violence, ces 7 mois très intenses en Nouvelle-Calédonie? Et je ne m'adresse pas forcément au général, mais aussi à Yann Latil.
Alors ça a d'abord été des moments très éprouvants pour deux raisons. C'est que nous avons l'habitude, nous militaires, d'intervenir sur des zones de crise, des moments difficiles, mais en général on le fait à l'étranger, et on le fait pas directement au profit des populations françaises, puisque c'est la responsabilité d'abord du ministère de l'Intérieur. Donc le faire au profit de nos populations, c'était à la fois une fierté, mais en même temps une tristesse d'avoir à mobiliser l'ensemble de nos forces directement au profit des populations du territoire, même si, comme je vous le dis, je suis très fier de la manière dont tout ça a pu être conduit. Après, professionnellement, ça a été extrêmement et sollicitant et intéressant. Moi, je suis très heureux de la manière dont nos forces ont réagi. J'ai eu quasiment l'intégralité des ressources dont j'ai eu besoin en termes d'hélicoptères, d'avions qui ont été approvisionnés de Paris. Évidemment, cela prend un certain délai. Les Calédoniens auraient voulu que nous disposions de toutes ces forces dans les 3 jours après le déclenchement des émeutes. Mais nous avons mis un pont aérien, comme je disais, sans équivalent depuis très très longtemps. J'ai doublé le nombre d'hélicoptères dont je disposais sur le territoire. Donc voilà, à la fois de la tristesse pour ce territoire et d'avoir à intervenir par la force, même si moi j'étais en deuxième rideau, on n'a jamais fait de maintien de l'ordre, les forces armées. Tristesse d'avoir à intervenir sur un territoire qui est français, et en même temps fierté d'avoir pu conduire cette opération avec des soldats qui ont été très réactifs.
Mon général, on va aborder la partie reconstruction, parce que ce territoire est en train de se reconstruire. Il y a 2 volets à la reconstruction. Il y a la reconstruction matérielle, on va y revenir dans un instant, puis il y a aussi la reconstruction sociétale, sociale. Les fonds qui ont un rôle à jouer dans cette reconstruction sociale?
Je crois que sur les 2 volets, nous avons un rôle à jouer. Historiquement, les forces armées sont bien implantées sur l'ensemble du territoire. Tous les Calédoniens connaissent bien les FANC, connaissent bien le service militaire adapté, qui est un joyau calédonien.
Et qui s'est jamais arrêté, je crois, pendant les émeutes, d'ailleurs.
Et qui s'est jamais arrêté. J'ai souhaité qu'on soit très attentif à accompagner ces jeunes, qui donnent aussi une autre image de la jeunesse calédonienne. Après 3 semaines de maintien dans leur formation, où ils sont restés fidèles, on les a raccompagnés à leur domicile en se disant peut-être que certains ne nous rejoindront pas au bout de quelques jours de permission. Et en fait, quasiment tous étaient là. Donc c'est là aussi une vraie satisfaction de voir qu'il y a une jeunesse qui reste fidèle aux forces armées, qui restait très, très loyale et conforme à ce qu'on peut attendre d'une jeunesse qui s'investit pour son territoire. Donc sur ce volet-là, sur le volet jeunesse, évidemment, les armées ont un rôle à jouer. Nous avons de nombreux dispositifs qui sont appréciés dans des dimensions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît en métropole. Par exemple, on a presque une quarantaine de classes de défense en Nouvelle-Calédonie. C'est 10 fois plus que ce que nous en avons en métropole. Les jeunes sont très allants, très volontaristes pour participer à ces classes de défense. C'est quasiment des classes qui sont sélectives, me disaient les enseignants, donc c'est une fierté aussi pour nous. On a de nombreux dispositifs d'accompagnement de la jeunesse qui vont de stages très courts, préparation militaire. On va bientôt commencer une préparation militaire marine où les jeunes passent le permis bateau. Et puis on développe de nouveaux dispositifs parce qu'on a senti qu'il y avait ce besoin sur le territoire. Un dispositif dont RRB d'ailleurs s'est fait le relais, c'est le volontariat découverte qui va permettre à une trentaine de jeunes calédoniens de toute origine, on veut les mixer, de découvrir la vie militaire sur une période un peu plus longue de 4 mois. Donc stage rémunéré pour se découvrir, pour éventuellement affirmer ou confirmer une volonté de s'engager dans les forces armées, ou peut-être juste découvrir un milieu nouveau, ou tester son leadership. Donc l'idée, c'est de mixer différentes classes sociales, différents niveaux d'études. Certains bacheliers qui, avant de rejoindre les universités métropolitaines, pourraient être intéressés sur ce stage qui va durer du mois de mars jusqu'au mois de juillet.
Tout l'intérêt, c'est de renforcer encore le lien armée-nation-jeunesse.
Clairement, on touche aujourd'hui par un engagement direct à travers le SMA, à travers l'engagement dans les forces armées, 1000 jeunes calédoniens, 600 dans le SMA qui passent une année sous l'uniforme et 400 qui choisissent de s'engager dans les forces armées. On veut aller au-delà parce qu'on pense qu'il y a une envie, un besoin et qu'on est un acteur qui est transverse et qui a la capacité de parler à tous. Donc on veut jouer ce rôle et on pense qu'on... on est un acteur légitime pour travailler à la reconstruction du lien social.
La reconstruction, c'est aussi la reconstruction matérielle. Comment les FANC peuvent intervenir? Il y a des grands chantiers qui ont déjà été lancés il y a quelques jours d'ailleurs.
Ouais, la loi de programmation militaire qui s'étale de 2024 à 2030 prévoit pour la Nouvelle-Calédonie 300 milliards de francs CFP d'investissement, de rémunération de ces soldats, puisqu'on va augmenter nos effectifs, de frais de fonctionnement, etc. Donc c'est très significatif. En termes d'infrastructures, c'est plus de 18 milliards qui vont être investis. On a déjà commencé il y a quelques années avec le Quai des Pommes, qui était un chantier considérable pour la région, très technique et en même temps qui a alimenté les entreprises de bâtiments et de travaux publics. Et on a poursuivi cette année avec un investissement très significatif. Plus de 20 milliards ont été commandés, 5 milliards pardon, ont été commandés en infrastructure. C'est par exemple le MES des Artifices qui sera intégralement déconstruit, reconstruit à partir du mois de mai de cette année. C'est la préparation des hangars à la Tontuta pour l'accueil de nouveaux Falcon et ces diverses opérations comme la construction de logements pour quelques effectifs supplémentaires qui arriveront dans les années à venir. Et ça va se poursuivre. 2024 était une année importante en termes de commandes. 2025, on a encore des projets intéressants à la Tontuta, entre autres. Et puis surtout, on a un acteur qui... commande, mais qui paye bien, fidèle et qui paye à l'heure. Donc je pense que dans la situation actuelle des entreprises du bâtiment et du travaux publics, c'est significatif.
Encore un mot, mon général, sur un exercice que tout le monde connaît en Calédonie, c'est l'exercice Croix du Sud qui revient tous les deux ans. Est-ce qu'il aura lieu en 2025 ?
On aurait pu se poser la question au regard de la crise et de l'investissement significatif qui en a découlé pour les forces armées. Oui, il aura lieu. Il aura lieu. On s'est fixé une ambition significative avec une préparation qui se tiendra sur le territoire calédonien fin avril, début mai 2025 et un déploiement qui sera et sur la Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna.
Ça, c'est la grande nouveauté.
C'est la nouveauté. On veut aussi tester nos capacités logistiques. C'était intéressant d'impliquer Wallis et Futuna, qui est un territoire qui a peu de ressources autonomes en termes de protection civile, en termes de forces de gendarmerie, de police. Donc on sait que s'ils subissent une catastrophe naturelle, ils seront contraints de très vite faire appel aux forces armées. Donc nous voulons aussi tester ces dispositifs. Nous le ferons avec nos partenaires, puisque le Pacific Response Group qui vient de se créer à la suite de la réunion des ministres de la Défense de la zone Pacifique Sud de Nouméa en décembre 2023, sera pour la première fois mis en œuvre à travers des équipes de reconnaissance qui permettront tous ensemble, acteurs du Pacifique Sud, de se coordonner dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Et c'est aussi ce que nous faisons pour l'intervention au Vanuatu, puisqu'on le fait dans le cadre du dispositif France. Nous discutions hier soir avec, évidemment, le Quai d'Orsay, mais les Australiens, les Néo-Zélandais, pour coordonner nos actions.
Un dernier mot sur la formation. On se souvient que le président de la République, lors de ses venues en Calédonie, avait annoncé la mise en place de la fameuse Académie du Pacifique. Elle fonctionne et elle fonctionne bien.
Oui, elle fonctionne bien. On a pu craindre pendant la crise que les capacités des FANC se détournent de ces objectifs, que nos partenaires soient moins fidèles lors de nos invitations à nous rejoindre ici ou lorsqu'on envoie des formateurs dans leurs unités. Mais en fait, on aura atteint nos objectifs en 2024, ou quasiment. Nous étions fixés un objectif de 240 stagiaires. Nous sommes à peu près à 220, donc très proche de l'objectif que nous étions fixés. Nombreuses formations ici en Nouvelle-Calédonie, où on accueille des partenaires, des Américains, des Australiens, des Néo-Zélandais, du personnel de Nauru, de Cook, de Fidji, de Tonga, je vais évidemment en oublier, mais enfin, tous nos partenaires de la région, qui sont fidèles à ces formations. On a une approche qui les intéresse, et on le fait aussi chez eux. On avait très récemment une équipe de formateurs qui était à Black Rock, au cœur de, des îles de Fidji, pour former des soldats fidjiens qui vont partir dans des opérations de maintien de la paix dans le, au titre des casques bleus. Donc on participe à leur formation dans le cadre de cette académie.
Les forces armées de, en Nouvelle-Calédonie vont pouvoir un peu souffler à l'approche des fêtes où malheureusement le séisme qui s'est produit au Vanuatu va un peu décaler les choses.
Alors effectivement, après une année complexe, j'avais dit à mes équipes que le mois de décembre était important pour mettre en trajectoire nos grands exercices, relancer l'académie, en leur promettant que la fin de l'année et le mois de janvier seraient plus calmes. On sera fidèle à nos camarades du Vanuatu, et s'il faut reporter un peu nos permissions, on le fera. C'est nécessaire pour notre grand voisin.
Merci beaucoup, mon général, d'avoir été notre invité ce matin. Le général Yann Attil, le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie.